R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bonsoir, bonjour, bonsoir. Introduction ensoleillée pour une journée un peu moins ensoleillée aujourd'hui à Rennes. On est en direct sur la R22 Tout le Monde. On est content de vous retrouver ici à Transcanal. C'est la première émission qu'on fait ici à Transcanal et c'est aussi pour fêter l'atterrissage, l'arrivée de la R22 Tout le Monde qui aura donc sa base dorénavant à Rennes, même si on va toujours continuer à voyager à Marseille, Strasbourg, Port-au-Prince, Guinée, partout où on peut être. Donc c'est une longue soirée pour ce moment d'atterrissage à Rennes. On va parler de questions à la fois qui ont trait avec des choses qui se passent ici, plus spécifiquement à Rennes ou en Bretagne, et puis aussi un peu plus loin, et retrouver certains de nos alliés. Donc Transcanal, ce lieu qui nous accueille, juste pour le dire, a été créé en 2020 par moi, donc Olivier Marbeuf, Latifa Labissi et Gilles Almavi. Donc Latifa Labissi qui est chorégraphe et Gilles Almavi qui est poète. Et pour dire aussi que ce soir, Latifa ne sera pas avec nous parce qu'elle joue. Et elle joue jusqu'au 20 novembre au CCN, au Centre chorégraphique national de Rennes, une pièce que je vous recommande qui s'appelle « La nuit tombe quand elle veut », qui est une pièce chorégraphique autour de la question de la veillée. Donc quelque chose qui est aussi à trait avec tout un ensemble de choses qu'on a discutées, qu'on discute et qu'on va discuter encore aujourd'hui et à d'autres occasions. Voilà, donc bienvenue à Transcanal, où on vous retrouvera donc pour des émissions à venir de l'R22.
Bonsoir, moi c'est Simon Marigny, je m'occupe de coordonner la R22 Tout le Monde. Et ce soir, à Transcanal, on fait notre quatrième plateau du Tout le Monde. Les plateaux du Tout le Monde, c'est des moments où on se réunit avec les différentes antennes et alliés, amis, proches et lointains, et des personnes aussi qu'on a envie de rencontrer pour apprendre et partager des nouveaux outils, qu'on fait une fois par mois. Ce mois-ci, donc, on le fait à Rennes avec des associations et des collectifs rennais, ainsi que des associations qui participent à la R22 Tout le Monde ailleurs en France. Ce soir, la soirée sera divisée en trois grosses parties. Donc un premier plateau radio avec le collectif ILOR qui pendant 3 ans a occupé une dalle de béton et l'a transformée en lieu de vie sur une zone d'aménagement concertée. Et ils vont nous partager leur expérience en discussion avec Guillaume Sabin qui est ethnologue et qui travaille autour des pédagogies sociales et des pédagogies de rue. Et pour introduire ce premier plateau, on va s'écouter le premier son qui est une archive qui est en train de se faire, qui se constitue au présent de l'expérience de l'ILOR. Et c'est un premier son qui dure 25 minutes et on fera la présentation des deuxième plateau et troisième plateau au moment venu, après un repas partagé qui aura lieu d'ici 2 heures. Donc là, on part pour 2 heures de live et après, on fait 1 heure de pause avec de la musique et on reprend pour un deuxième plateau de 2 heures et une troisième émission musicale de 2 heures. Donc on est parti pour 6 heures de live jusqu'à minuit et ça commence tout de suite avec le premier épisode de l'ILOR.
Moi, je suis rentré à Sushi Shop pour ça. Je suis rentré à Sushi Shop pour défoncer les escaliers.
Fouiner. Fuir. S'esquiver à la manière d'une fouine. Se livrer à des recherches méticuleuses. Explorer les moindres recoins.
Je l'ai choisi parce que j'avais besoin d'argent et parce que c'était pratique pour moi. Mais à chaque fois que je suis retourné à Sushi Shop, à chaque fois je me dis je reste encore un peu. C'était pour pouvoir continuer à être VIP dans tous les halls d'immeubles.
«
je pouvais aller taguer pendant que je travaillais, qui était déjà dans ma tête, j'étais payé pendant que je taguais, ça c'était comme symbole assez cool. Et puis il y avait aussi le fait que du coup on me fournissait le scooter, on me fournissait les codes de tous les appartements, et on me demandait d'y aller en plus, on me demandait de prendre les ascenseurs, etc. machin. Moi j'avais plus qu'à prendre ma clé et graver les ascenseurs, j'avais plus qu'à regarder c'était quoi les codes et revenir plus tard pour voir s'il y avait des accès au toit. D'ailleurs je pouvais checker tous les accès au toit à ce moment-là, je pouvais voir s'il y avait des caméras, machin, machin. Et en plus j'ai pu complètement quadriller la ville quoi, assez vite, je savais dans quel quartier il y avait moins de trucs, il y avait plus de trucs, etc.
Les villes, ça fait comme des petites taches grises, éparpillées sur un grand aplat vert. Quand on regarde bien, ça fait comme des petits points de rouille. Rennes. Quand on se rapproche, on voit bien la forme de l'impact. Elle est contenue à l'intérieur d'une ligne, une ligne bien nette qui scinde le gris du fond vert. C'est le boulevard périphérique. Ce qui est étonnant avec cette ligne, c'est qu'elle ne fait pas tout le tour de la ville. Non, à droite, pchit, c'est comme si le stylo avait dérapé. La forme est ouverte sur son côté droit. Et là, c'est comme si toute la ville dégueulait et que le gris se déversait dans le vert. Il y a du mouvement. C'est le bordel. On voit des champs alors qu'on est dans la ville, un tissu urbain moins dense qu'à l'ouest, une zone de campus universitaire gigantesque qui fait un dixième de la surface globale de la ville. Un grand cimetière, c'est pas du tout le même motif. Mais ce qui frappe le plus visuellement, c'est ces deux grosses artères. Le fleuve d'un côté, la voie ferrée de l'autre. Deux gros traits bien épais, l'un noir, l'autre marron. C'est là que l'histoire se passe. Quand on plonge à l'intérieur de ces deux lignes, on arrive sur la plaine de Beau.
Note sur l'île OR, index, situation, la plaine de Beau. Un territoire de 60 hectares situé dans la partie est de Rennes, délimité au nord par la Vilaine, au sud par la voie ferrée Paris-Brest, à l'ouest par le boulevard Villebois-Mareuil et à l'est par le terminal ferroviaire.
Quand tu chines beaucoup, quand tu as déjà un petit peu d'expérience en chinage, tu sens assez vite c'est quoi les quartiers qui ont du potentiel éventuellement, souvent les zones industrielles, souvent à côté des chemins de fer. Il y a des espèces de zones qui sont des zones de transition où avant c'était des dépôts, des décharges, etc. Et que ça va devenir un endroit hype. Et souvent ces endroits-là, vu que c'est des endroits en changement, il y a beaucoup de trucs où le raisonnement de la ville ou des grandes entreprises, c'est bon, pour l'instant on laisse ça là et on verra, ça va bouger dans pas longtemps. Et nous, ça c'est le moment dans lequel on peut bien chiner, parce que c'est le moment où plus ou moins tout est pas sous garde quoi. Y a pas, ouais, la garde est baissée pendant ce temps là et donc nous on a accès à énormément de choses qui sont laissées en attente. Moi, je sais que quand j'ai découvert des endroits comme la zone en question, j'applique cette espèce de procédé de recherche qui est ça, c'est une zone à un bon potentiel. Il doit y avoir des trucs là-bas. Je pars d'une espèce de certitude qu'il y a des trucs à voir là-bas et que maintenant, il n'y a plus qu'à les trouver. Donc maintenant, je suis au début des grands axes et je trouve toutes les petites ouvertures, les trucs qui ne sont pas forcément faits pour une voiture, mais les trucs où éventuellement... Il y a un chemin, mais qui s'apparenterait plus à un chemin d'animal qu'à un chemin d'humain. Et ça, on explore. Enfin, je vais appeler ça comme ça, mais les chemins de l'animal, les tout petits chemins, tu peux y aller en vélo ou à pied, ça a un potentiel énorme. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour la zone.
Zone, c'est... Очень сложная система ловушек, что ли. И все они смертельны. Не знаю, что здесь происходит в отсутствии человека. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Бывшие ловушки исчезают, появляются новые. Безопасные места становятся непроходимыми. И путь делается то простым и легким, то запутывается до невозможности.
La zone.
Это зона.
Une parcelle encastrée entre des formes polygonales grises et lisses, bien délimitées par un trait fin. Il y a plein de détails à l'intérieur, des irrégularités, des marques. On voit même des empreintes sur le sol, comme des petits chemins tracés avec un style tremblotant. C'est confus, un peu flou, c'est surtout très dense. Il y aurait plein d'histoires à raconter si je continuais de décrire.
ILOR, journal de bord. Mars 2016. Archéologie des surfaces lisses. Découverte d'un terrain vague sur la plaine de Beau. De longs pans de murs vierges. Dense végétation. Défrichage léger pour accéder au mur. Peinture. Avril 2016. Premières incursions en groupe sur la zone. Découverte de l'existence d'un revêtement bitumé. Environ 9 mètres de large pour 25 mètres de long. Probablement une ancienne route d'accès. Épaisse couche de poussière. Balayage d'une surface d'un mètre sur deux pour analyse du sol. Presque lisse.
Quand je suis arrivé sur le spot, moi ce qui m'avait plu, c'était le fait qu'il y ait des espèces de murailles tout autour. Une fois qu'on rentre par ce chemin qui était assez étroit, on peut vraiment être lâché et on a quand même une grande surface. On avait, je saurais pas dire exactement quelle surface c'était, mais c'était un beau terrain de jeu qui était un peu sans vis-à-vis. Donc ça, c'était quand même bien pour peindre. Chercher un endroit semi-sauvage où je pourrais faire ce que je veux sans me faire emmerder par des gens qui veulent contrôler ce qui se passe autour de chez eux.
Dans la partie du bas, il y a une bande de végétation très dense. C'est touffu. Des petites fleurs par-ci par-là, du violet, des points jaunes, du blanc. Mais c'est surtout très vert. Au-dessus, posé sur toute cette verdure, il y a des buissons. Là, le vert est plus foncé. La partie supérieure, c'est un grand mur, une façade de parpaings. Pour se faire une idée de l'échelle, le mur fait environ 30 parpaings de haut. On voit juste un bout de ciel dans l'angle en haut à gauche, un petit triangle gris. Sur ce mur, gris, il y a une peinture bleue. Cette peinture, c'est 4 grosses lettres écrites en capitales. Un N, un O, un K, un E. On dirait que le mot est tapé à l'ordinateur. Chaque lettre est entourée d'un gros trait noir épais. Ça impacte beaucoup visuellement. Voilà, sinon, il y a d'autres petits tags à droite à gauche, une étoile qui est peinte en blanc sur un fond carré noir, qui dégouline, un début de lettre, un X, énorme, mais interrompu à la moitié. Alors là, soit le rouleau était pas assez long, soit la personne s'est rendue compte de l'ampleur du travail dans laquelle il s'embarquait, elle a peut-être abandonné. Ou alors elle s'est dit « je finirai demain », Et pendant la nuit, l'autre est venu et lui a barré la route avec son knock. On sait pas. Moi, je décris juste ce que je vois.
La première fois, j'ai beaucoup, on va dire, respecté la zone. J'ai absolument rien touché. Je suis juste allé me mettre à un endroit qui était, où il y avait un petit peu de place. J'ai peint mon truc et je suis reparti un peu comme un test, quoi. Genre, bon, bah, je sais pas trop. J'ai même pas déblayé mon mur. Dans mes souvenirs, j'ai grappillé une place qui restait, qui doit être l'équivalent de la place à gauche du Horus, à gauche de la Payotte. Ça doit être, ouais, c'est ça. Et je me suis posé là discrètement, j'ai pas fait de bruit. Je crois que même à l'époque, il y avait la pampa partout, donc je savais pas trop où je marchais. On va dire, ouais, j'étais très dans le respect et. Ouais, effarouché un peu en fait.
What do you see right here? It's bulk metal, 10 cents a pound.
Aluminum.
Right you are. 30 cents a pound. No problem. You see, in these modern times, man gotta keep one eye on the ground, pick up what he finds, feel me? But there's money to be made, you know where to look. I hope you're listening, because I'm trying to school you here.
Huh?
Uh-huh. Yeah, you don't want to know. Well, you think you're brown, but you're still green.
J'ai pas forcément été l'initiateur au niveau de l'idée. J'ai juste été, on va dire, le premier qui a trouvé une zone qui pourrait s'apparenter à l'idée qu'on avait déjà eue. Donc à la base, on savait même pas qu'il y avait une dalle. On est arrivé en se disant peut-être qu'on pourrait faire une rampe en bois ici et avec un peu plus d'attention et peut-être aussi l'histoire de Google Maps, je ne sais plus si c'était à ce moment-là ou après, on a compris qu'il y avait une dalle qui était sous la poussière et on a commencé du coup à gratter la poussière, nettoyer la dalle et une belle surface pour rouler en skate. Et petit à petit, c'était pas juste un terrain de jeu, c'était presque un terrain de vie, c'était un espèce de petit microcosme dans la ville où on pouvait respirer un peu. Il n'y avait pas trop de notion de qu'est-ce qui est illicite ou pas. Le seul petite tension qu'on avait à l'extérieur au début, c'était le fait que quand on passait pour rentrer dans ce terrain-là, il y avait un détecteur de présence, un sensor, qui, quand on passait trop près, s'activait et qui, du coup, ramenait un employé de sécurité. Au début, il nous disait juste essayez de ne pas passer devant le sensor. À chaque fois que vous le faites, je suis obligé de venir, ça fait un peu chier. Et il avait déjà une démarche qui n'était pas trop dans la démarche habituelle, qui était de dire vous n'avez rien à faire ici, partez. C'était plus genre s'il vous plaît, me faites pas chier, j'ai autre chose à foutre que venir dans ce terrain vague. Et donc petit à petit, je crois qu'il a d'abord redirigé le sensor vers une autre direction, pas que ça soit déclenché à chaque fois qu'on passe. Puis il a totalement enlevé le sensor. Donc là c'était carrément le feu vert, quoi. C'était bon. Même l'employé Securitas nous a dit que c'était bon, pas par ses gestes, pas par ses paroles. C'était un mini système dans un sens. Nous on s'en allait d'un système qui était beaucoup trop compliqué avec beaucoup de gens. Et pendant quelques heures on arrivait dans ce terrain-là et on avait notre petit système avec un groupe social beaucoup plus petit. Avec un endroit avec des délimitations très physiques, très concrètes, on avait des murailles autour de nous.
sont discrets, les yeux vigilants et attentifs sur ce qui les entoure, sur le voisinage. Eux aussi d'ailleurs. Les errances urbaines et périurbaines nous ont appris que ce que certains considèrent comme une friche, une ruine, reste pour d'autres un refuge.
Je pense qu'il y a vraiment l'idée aussi de relation, que la zone proposait quelque chose aussi. Dans le sens où on aurait fait n'importe quoi dès le début, la zone elle aurait été verrouillée. Et le fait qu'on y soit allé avec respect et doucement, crescendo comme tu disais, progressivement, la zone a su, tu vois, on a su se l'approprier de manière légitime, jusqu'à ce que même le mec enlève lui-même le sensor. Il aurait pu, lui, ce gars-là de sécurité, avorter tout le projet juste en disant, écoutez les gars, vous me cassez les couilles à allumer le sensor tout le temps, j'artais ou j'appelle les flics. Il aurait pu faire ça. Mais vu qu'on était dans le respect, ça s'est passé différemment.
R22, tout le monde. Antenne ILOR. Fouiné. Avec les voix de Félix, Diane et Tito. Extrait du film Stalker d'Andrei Tarkovsky et de la série The Wire de David Simon et Ed Burns. Saison 3, épisode 12. Musique par Suis-je fou.
Bonsoir, Tito pour l'ILOR. Merci à la R22, à Transcanal de nous héberger et de nous accueillir ce soir pour retransmettre pour la première fois en direct nos récits. Vous avez pu entendre le premier épisode d'un feuilleton documentaire qu'on a commencé il y a un peu plus d'un an, à la suite de l'invitation et de la proposition d'Olivier. Qui a connu l'ILOR quand il était encore debout. Aujourd'hui, on en parle au passé, et c'est pour ça aussi qu'on le raconte de cette manière. Petit point pour ceux qui ne parlent pas russe. Dans l'épisode, il y avait un extrait qui provient du film Stalker d'Andrei Tarkovsky, daté de 1979. Un film qui parle d'une mythologie, d'une zone, une zone dans laquelle il y aurait une chambre, et cette chambre réaliserait les souhaits les plus profonds de l'être qui pénétrait son seuil. Et donc on a le droit à trois protagonistes qui se lancent dans une aventure. On a l'écrivain, le savant et le stalker, le passeur. Ce qu'il raconte dans ce petit extrait, c'est que la zone... donc c'est le stalker qui parle et qui nous raconte que la zone n'est jamais la même. À chaque passage, elle change, elle est mouvante, elle peut être dangereuse, il y a des pièges, et on a beau connaître ces pièges, ils sont jamais disposés de la même manière. Et c'est pour ça qu'il nous explique qu'il est important de ne jamais ni faire demi-tour, ni reprendre le même chemin. Voilà. Si vous aimez le russe et les films très longs, je vous invite à aller voir ça. Le second extrait, ça provient d'une série qui s'appelle The Wire, qui a été réalisée dans le tout début des années 2000 à Baltimore par un ancien journaliste du Baltimore Sun, et qui raconte la vie d'un quartier en fait et de ses populations.
Dans cet extrait, on a c'est Bubbles qui parle. Bubbles, c'est un drogué, un addict, comme ils disent dans la série, et qui pour financer ses pratiques, récupère entre autres des métaux, se balade dans la rue, et puis là, il est avec un jeune compagnon, et il lui explique que c'est important de regarder par terre, et qu'il y a plein de secrets qui se cachent par terre. Ça fait un petit peu écho à la pratique de certains d'entre nous, qui est celle du skateboard, et pour laquelle on est quand même vachement sensible au sol. Voilà pour la petite introduction et les petites mises au point sur les extraits.
Merci. On s'est dit qu'on allait commencer, après avoir écouté ce premier épisode, déjà savoir dans un premier temps s'il y avait des réactions à chaud ou des questions suite à ce qu'on a écouté. Et s'il n'y en a pas, qu'on allait commencer à traverser une notion en fait, qui va nous accompagner tout le long de la soirée, et qui est celle de refuge. Et tout à l'heure, avant l'émission, on discutait de ça, et notamment avec Guillaume, quoi, qui posait ça aussi sur la table, en fait, de refuge, mais on se réfugie de quoi ? Et Lil Oer, ce qu'il a représenté aussi pour vous et pour les personnes qui en ont fait usage à cet endroit-là, quoi. C'est un refuge, mais qui est à ciel ouvert. Et comment il s'est inscrit aussi dans vos vies et comment il s'est inscrit dans la ville.
Bonsoir, moi c'est Guillaume, donc je suis ethnologue et bon, je suis arrivé à être invité à Lil Oer pour faire rapide parce que j'avais travaillé avec des pédagogues de rue du groupe de pédagogie et d'animation sociale, et avec eux on avait sorti un petit livre qui s'appelle « La joie du dehors » et forcément il y avait des liens entre ce mode de vie sur Lil Oer, ce skatepark do it yourself, et aussi un espace de vie, et des pédagogues de rue qui se promenaient toute la journée avec 3 ou 4 enfants en se passant de locaux d'activité, et qui vivaient des choses en observant et en utilisant toutes les opportunités que peuvent offrir la ville ou la campagne. Et bon, déjà ça traçait beaucoup de parallèles avec des pratiques de vie de Lil Oer. Et quand on parle refuge, là je vais après passer la parole à la petite équipe de Lil Oer, mais j'ai l'impression que quand on pense refuge dans notre société, on pense cocooning, home sweet home, et refuge, ce serait quelque chose qui est fermé, qui est quelque chose de privé. Et là, faut dire que le type de refuge de Lil Oer, c'est plutôt le refuge de montagne qui accueille quiconque passe par là et qui n'a pas de clé. Et la deuxième chose, il faudrait mettre en lien cette notion de refuge qui n'est pas quelque chose pour se couper du monde, et que là c'est un refuge qui est ouvert sur des choses invisibles ou insoupçonnées. Et là je pense que l'équipe de Lil Oer a des dizaines d'anecdotes sur les gens rencontrés dans cet espace-là et autour quand on cesse de vivre dans ces petites maisons. Voilà, c'est ma petite introduction sur la notion de refuge.
Pour rebondir sur la notion de refuge, il y a un skateur qui a dit un jour « Ma maison est là partout où le béton recouvre le sol ». Il voulait dire par là, enfin c'était pas un fan de l'architecture brutaliste ou quoi, mais il voulait dire par là que, en fait, partout où il peut rouler, il se sent chez lui. Et avant que ça devienne un refuge dans un sens peut-être plus large et au sens d'un refuge montagnard, Lil Oer, ça a été une dalle une dalle sur laquelle on a fait ce qu'on savait faire en fait. C'est-à-dire construire des courbes, des modules, un skatepark en béton et par nos mains. En partant de là, on avait un super terrain de jeu. Mais comme les extraits qu'on vous a passés l'indiquent, on est aussi très terre-à-terre. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y avait juste pas d'ombre sur la zone, pas d'arbres, et qu'on arrivait à l'été et qu'il allait faire très chaud, que le soleil y cognait. Et donc, avant tout, il a été question de se fabriquer un abri très précaire pour un premier élément, qui est le soleil. Par la suite, il y a eu d'autres éléments qui sont arrivés, parce que les saisons, elles changent et qu'on est dehors, on compose avec. Et l'abri est peut-être à un moment donné devenu refuge, pour même, à un moment donné, suite à un moment de fête... où il y a un mot qui a, enfin, une phrase qui a été lâchée, en fait, qui a été de dire « Mais en fait, ici, il faut que ça devienne un village. » Et c'est ensuite, après, qu'on s'est mis à parler de zone de vie.
Diane, du collectif Iloer, juste par rapport aux prémices, l'Iloer, avant qu'on le nomme comme ça, c'était un lieu qui existait déjà, qui était déjà habité par des passeurs, des gens qui avaient eux-mêmes trouvé refuge, notamment un homme qui habitait là, près du château d'eau. Et même le nom, finalement, a été emprunté. Il provient de Iloer, de la découpe d'une ZAC, zone d'aménagement concertée, qui se fait en îlot et... La lettre R correspondait à, et correspond encore, à cette portion de parcelle de terrain qui était en construction. Ouais, tout ça pour dire que il y avait des gens avant nous et ce lieu existait. Et il s'y passait pas mal de choses. Et au moment, moi j'ai des souvenirs du début où je me promenais sur la zone et où, en arrivant dans la zone, enfin, dans le cœur du village, entre guillemets, où il y avait une petite cabane et quelques modules en béton, je me souviens de visiteurs qui avaient trouvé l'endroit sur Google Maps parce qu'ils cherchaient un endroit où faire du feu dans la ville. Ils voulaient se réchauffer et puis griller des merguez. Je ne sais plus ce qu'ils avaient dans leur... Kaba, mais on a partagé un moment ensemble un soir et ils sont revenus quelques jours après et c'était des belles rencontres.
Oui, je voulais vous poser une question aussi à tous à propos du coup Tito vient de dire en fait on a fait ce qu'on savait faire, on a construit des modules et du coup ça m'intéressait en fait d'en savoir un peu plus sur la transmission des savoir-faire, en fait, qui sait faire quoi et comment se sont construites les choses au fur et à mesure aussi en termes de transmission. J'imagine là que ça fait un peu plus que d'autres certaines choses et comment ça devient aussi une manière d'apprendre à faire à cet endroit-là et peut-être aussi d'apprendre à faire pour d'autres endroits. Donc juste parler de l'Iloer comme endroit d'expérimentation pour apprendre à faire. Alors, comment ça s'est passé?
Alors effectivement, Anto de l'Iloer, effectivement Tito a commencé en disant qu'on faisait sur la zone ce qu'on savait faire, mais en fait c'est pas forcément vrai justement, moi je suis arrivé surtout intéressé par le côté skate quoi, on m'a dit ouais on a trouvé une zone avec une dalle, on peut couler du béton et faire un skatepark, moi j'avais aucune expérience donc du DIY quoi. Et justement, j'ai appris ça donc avec Tito, les jumeaux, tous ceux qui avaient savoir quoi en fait, qui sont devenus passeurs du savoir justement. Donc ça a été le savoir béton. Après, il y a eu aussi le savoir construction, tout ce qui a été en bois, toutes les paillotes, tout ça. Et puis plein d'autres choses. Moi-même, après, j'ai pu du coup transmettre ce que j'avais appris aux nouveaux venus sur la zone. Ou transmettre ce que je savais déjà quoi. Donc ce qui était intéressant sur cette zone aussi c'est qu'il y avait un vrai échange des savoirs justement c'était circulaire, ça tournait, chacun avait quelque chose à apporter. Et tout le monde avait aussi quelque chose à apprendre des autres. Donc voilà.
Bonsoir, je m'appelle David, j'ai participé à l'expérience de l'île OER. Effectivement, j'ai l'impression que on a beaucoup appris les uns des autres sur plein de points différents et sur des choses assez inattendues, comme notamment l'accueil de personnes en situation de précarité. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, je me suis pointé sur l'île OER et il y avait une personne dans la cabane qui avait l'air d'être assez perdue. Cette personne m'a proposé une bière 7-2 à 14h. J'ai pas trop l'habitude de boire de la bière à cette heure-là, mais j'ai quand même accepté pour pouvoir engager une discussion avec lui et prendre le temps de se rencontrer et de connaître sa situation. Et en fait, cette personne, elle sortait de l'hôpital psychiatrique et elle était en train de cramer ses papiers administratifs dans le poêle et aussi ses vêtements de malade. Donc je me suis dit, là, il y a un truc à faire, on peut pas le laisser comme ça, il faut qu'on l'accueille. Et je pense qu'on a aussi appris à accueillir des gens.
Et je pense que pour accueillir, et tu l'as dit assez clairement, il a fallu prendre un temps. Ça peut se faire en partageant une bière, comme ça peut se faire en grappillant du temps sur son temps de travail salarié, comme ça peut se faire en s'octroyant du temps de beaucoup d'autres manières, en fait. Mais en tout cas, il y a cette question de la disponibilité pour pouvoir accueillir. Et en fait, à travers l'île OER, c'est comme on était en collectif, et c'était assez facile de se passer des relais, en fait. C'est un peu comme pour les savoirs, on savait qu'on était tous plus ou moins là, qu'il y avait ce truc de cette zone. Très rapidement, on avait même plus besoin de se poser de questions, de se dire on se donne rendez-vous où, parce qu'en fait, c'était devenu un endroit où on revenait quotidiennement. Et c'est aussi par ce biais-là que ça nous a donné une légitimité après, comme le dit Félix, de s'approprier des choses et un espace. Parce que bien qu'on ait des méthodes peut-être un peu radicales, on aime bien faire les choses sans faire de bruit et sans rien demander à personne. On essaie de prendre en compte le contexte dans lequel on agit. Et comme Diane pouvait l'exprimer, on savait qu'on n'arrivait pas sur un territoire neutre, qu'il y avait des habitants historiques qui étaient déjà présents sur cette plaine, et qu'ils avaient déjà beaucoup œuvré, et que je pense que sans leur présence, et sans aussi prendre le temps avec ses voisins d'échanger, de discuter, on ne serait pas parvenu à faire ce qui a été fait collectivement.
Bonjour, bonsoir, je m'appelle Mami Kaba et j'habite à Grenoble. Donc je remercie la R22 et Transcanal de nous accueillir ici ce soir. J'ai une question à vous poser, Lilo R. Mais avant de poser ma question, j'aimerais rebondir sur la question du refus. Parce que moi, j'étais demandeur d'asile. Donc j'ai fréquenté beaucoup de squats, d'endroits de refus. Et il y a 2 semaines, 3 semaines, j'étais à Briançon. Dans le refuge solidaire. Et donc, suite à mon expérience, moi, le refuge, ce n'est pas des briques, ce n'est pas une maison, enfin, c'est peut-être un espace. Mais moi, pour moi, le refuge, c'est l'accumulation des corps malades et des personnes conscientes, donc, qui veulent vraiment occuper l'espace. Donc, moi, pour moi, c'est ça, un refuge. Donc, ça peut changer d'endroit, ça peut varier, mais cette mentalité, elle est là. Voilà. Et donc, ma question. Au refuge, comment on appelle les personnes qui vivent au refuge? Alors, je sais pas. Et quand il y a des rapports, comment ça se passe quand il y a un rapport de force avec les autorités? Voilà. Comment ça se passe?
Comme je pouvais l'expliquer, on a pas mal de méthodes qui sont qui proviennent en fait de nos pratiques du dehors, entre autres la peinture dans l'espace public ou la glisse en général dans l'espace public. Ça nous permet en fait d'avoir une veille quotidienne sur les espaces de la ville, à apprendre aussi à percevoir certaines choses. Je parlais tout à l'heure de regarder par terre. Et on a aussi, avec le skateboard, cette faculté de, en lançant notre planche, on peut passer en une seconde de 0 à 20 km/h et donc d'être plutôt fugace. Et c'était dans nos habitudes d'être comme ça. En fait, quand il y avait un problème, un rapport avec l'autorité, pour lequel on savait qu'on n'avait peut-être pas toutes les capacités de résistance, on avait malgré tout cette capacité de prendre la fuite comme bon nous semble. Il se trouve qu'avec l'ILOR, on a décidé, en tout cas ça s'est imposé à nous, on a eu envie de se fixer sur un endroit. Et donc ça nous a amené à d'autres problématiques. Il se trouve que dans les faits, ce rapport en fait à l'autorité, comme on a été très discret, comme le dit Félix, très respectueux, eh ben, il est arrivé très très tard. Pendant 2 ans d'expérience, on a vécu totalement en dehors des radars, sans que personne nous demande aucun compte et sans qu'on demande rien à personne. Après, par la suite, les choses ont changé quand peut-être les choses ont pris une dimension. Je me rappelle d'un clin d'œil qui nous avait été fait suite à une réunion de crise de notre premier rapport à l'autorité, qui avait été dit, bah, vous avez peut-être poussé la démocratie un peu plus loin que ce qui était prévu et ils n'ont pas apprécié.
Oui, c'est David. Je pense que, comme tu dis, Tristan, c'est clairement nos méthodes qui nous ont permis de faire ce qu'on a fait. Mais je voudrais quand même préciser une petite chose. Tu dis, Tristan, qu'on s'est posé à un endroit, mais à la différence de certaines personnes, on n'y a jamais habité dans le sens de dormir. Et je pense que ça a clairement fait la différence, parce que en général, les flics, ils se pointent le matin pour virer tout le monde. Donc on avait cette chance en fait de tous avoir un appartement ou une maison dans lequel rentrer pour dormir. Et du coup, je pense que c'est clairement ce qui nous a sauvés. Mais il y a aussi autre chose, c'est le contexte territorial. En plus que cette zone soit en friche, c'était en fait tout un quartier. Et du coup, la ville était clairement pas du tout intéressée pour savoir ce qui s'y passe et essayer de contrôler cet espace.
Oui, je voulais faire une transition pour rebondir sur ce que disait Mamie et ce que tu viens de dire. Du coup, peut-être questionner sur quelles ont été les relations entre les différents types de présence, peut-être aussi les frictions, les différents types de nécessités, parce que je pense qu'aussi la manière d'habiter un espace, ça relève aussi de désir, mais aussi parfois de nécessité. Alors comment, dans l'ILOR, parce qu'on ne va pas en parler de manière générale, mais de manière assez particulière aujourd'hui, comment cohabitent des différents niveaux de nécessité sur un même espace, comme disait aussi Mamie, voilà comment on appelle ceux qui habitent le refuge, ça dépend aussi évidemment de leur pratique du refuge et s'ils peuvent rentrer chez eux ou pas. Est-ce qu'il y avait des gens sur cette zone-là qui avaient des nécessités qui étaient différentes des vôtres et comment elles se sont harmonisées? Parce que là, il y a un geste de skateboard qui est comme un espèce de dynamique commune, quoi, une espèce de geste qui rassemble des gens, mais il y avait d'autres types de personnes qui sont greffées, à la fois d'autres types de nécessités et peut-être pas aussi des gens qui n'étaient pas des skateurs ou pas des skateuses, parce que je me trompe pas, c'est quand même assez masculin en fait dans cette pratique. Donc est-ce que vous pourriez parler de ces autres dans la zone et comment s'est tissé justement cette manière d'habiter ensemble cet espace là ou quelle friction il y a pu avoir si ça s'est pas réalisé, quoi. Alors je sais que c'est évoqué aussi dans d'autres sons d'ILOR, hein, mais donc comme on en écoutera pas tous ce soir, je trouve ça intéressant de l'aborder.
Bonsoir, je m'appelle Célestine, je fais partie de l'ILOR. Du coup, je suis une fille et je fais pas de skate. Donc si ça peut répondre à ta question, Olivier, peut-être qu'on peut commencer par là. T'as posé une question et en fait, j'y réfléchis depuis tout à l'heure. Comment on appelait les gens en fait qu'on accueillait, c'est vraiment hyper bête, c'est qu'on les appelait par leur prénom. Et nous, on s'appelait par nos prénoms, enfin, ou par nos blases. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'identifiait. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas vraiment la question de... T'es en difficulté, alors là, t'as 2 semaines, tu peux prendre la cabane, du coup, on va faire un relais. Non, il n'y avait pas ça. C'est, on rencontrait une personne. Comment tu t'appelles ? Ok. Puis il nous demandait, est-ce que je peux dormir là ce soir ? Vas-y, ok, c'est dispo. Par contre, le lieu, il est un peu secret. Enfin, ça se comprenait, quoi. Je pense qu'il y avait une conscientisation et une responsabilité en fait envers le lieu. Et quand Félix il dit que il y avait le respect envers le lieu, il y avait le respect par rapport au site, enfin à l'écosystème, mais il y avait aussi cette espèce de respect du silence, que en fait tout se passait par bouche à oreille. Donc du coup, les gens qui venaient, les gens qu'on accueillait, qui avaient besoin, eux, d'un refuge. Souvent, ils voyaient la zone sur Google Maps, ils se disaient « Oh, bah là, ça a l'air d'être tranquille dans la ville, c'est pas du tout habité, je vais pouvoir me mettre là en scred. » Et en fait, ils arrivaient, il y avait des constructions, et nous, on était là. Donc, de fait, il n'y avait pas vraiment... Nous, on n'était pas dans la recherche, en fait, d'accueillir des gens. C'est un peu horrible de dire ça, mais on n'était pas non plus en mode « Ah, oh, bah... on va vous accueillir », sinon ils étaient là, ils avaient besoin de ça, et nous, en fait, c'était ouvert. Et c'est juste que, voilà, il y avait cette espèce de truc de on est ensemble responsables de cet endroit-là, et on s'appelait par nos prénoms, quoi. Il y avait pas, on n'était pas dans ce rapport-là de, je sais pas, de l'accueil, je sais pas. Je passe le micro.
Moi, c'est Sébastien de l'île OR. En parlant de nécessité, en fait, c'est aussi suite à la démolition d'un autre skatepark qu'on avait construit juste avant de commencer cette expérience. On avait ce besoin, en fait, d'avoir un autre espace où déployer nos énergies. Et du coup, quand on parle de refuge, c'est pas forcément un refuge pour se reposer, mais c'est aussi un refuge pour avoir un espace libéré de beaucoup de contraintes, que ce soit, par exemple, de surveillance, comme le dit Félix dans le podcast, où finalement, le détecteur, il a été sauté. Donc, finalement, cette contrainte, elle a été évacuée rapidement. Donc, c'est devenu un espace libéré et dans lequel on pouvait, justement, comme je dis, déployer des énergies et tester ensemble des manières de faire. Et surtout, utiliser aussi le potentiel des alentours. Parce que, comme ça a été soulevé tout à l'heure, tout autour, il y avait un quartier en construction. Et donc ça nous a permis en fait d'obtenir des matériaux très facilement et du coup de développer en fait nos énergies, nos activités sur cet espace.
Ça fait beaucoup cogiter. Moi c'est GG, je suis pas de l'île OR, j'y suis allé plusieurs fois, quelques fois. Et tu parles du coup des matériaux trouvés sur place et ça me faisait penser à l'aspect DIY qu'un anglicisme, mais au final, qui est peut-être le synonyme du mot vernaculaire. Et donc, on parle d'une chose vernaculaire quand elle est sous nos pieds ou vraiment environnante. Et ici, on est à Rennes, en Bretagne. Une architecture vernaculaire peut être une vieille longère en pierre qui a traversé les siècles. Mais je crois peut-être qu'au final, cette chose DIY qui a été faite sur l'île OR, qui était un refuge, elle était aussi vernaculaire parce que du coup, quand j'ai écouté les podcasts où vous alliez chercher l'eau dans la ville laine, il me semble, enfin, toute cette chose de faire avec l'environnement proche et cette notion de refuge, ouais, de refuge, je sais pas, et du vernaculaire, mais c'est tout, je me suis perdu.
Pour faire une transition vers un deuxième extrait qu'on va s'écouter aussi en avant-première, donc du prochain épisode. De l'île OR, moi j'ai l'impression que ce qui est singulier aussi avec votre expérience, c'est que dans la plupart des lieux abandonnés, qu'ils soient souterrains, au rez-de-chaussée quoi, ou sur les toits, ou quand on pratique le graffiti, l'exploration urbaine ou d'autres pratiques en fait, qui nous amènent dans ces lieux, on se rend compte que ce n'est pas des lieux abandonnés du tout et, en fait, et qu'ils sont très peuplés. Donc il y a toujours du monde, quoi, que ce soit d'oxycos, des personnes qui viennent se loger, des personnes qui viennent peindre ou prendre des photos, se balader. En fait, c'est des lieux où il y a vraiment des gens assez régulièrement. Mais là où les expériences sont toujours fugaces, quoi. On y entre et on y sort, mais il y a rarement une multiplicité, enfin plusieurs pratiques en fait qui vont petit à petit cohabiter ensemble et s'accumuler ensemble, quoi. Et j'ai l'impression qu'avec l'ILOR, c'est ça aussi qui s'est passé par une présence aussi constante, c'est qu'il y a une accumulation comme ça de personnes et de pratiques qui a commencé à voir le jour, tout en restant organique, parce qu'il y avait, enfin voilà, c'était à ciel, globalement plutôt à ciel ouvert. Du coup, il n'y a pas de clé, quoi, en fait, pour y entrer et sortir. Et parmi ces différents usages, quoi, et habitations, on parlait tout à l'heure de faire un petit focus aussi sur les GPS. Et dont le prochain épisode, quoi, sera dont ça sera la thématique aussi du prochain épisode, et qui nous fait revenir aussi sur l'ILOR aussi comme un espace de formation et de transmission. Et je ne sais pas si Guillaume ou Diane voulaient nous introduire cet épisode aussi. Est-ce que ça a été aussi l'expérience de ce que c'est aussi d'ailleurs les GPS, la pédagogie sociale et cette expérience-là sur l'ILOR et le son qu'on va s'écouter là juste après.
GPS. Alors donc moi je faisais partie de, enfin j'ai été parachutiste sur la plaine de Beau et j'avais pas le passeport skate non plus en découvrant le lieu, en rencontrant le collectif, et ça m'a pas empêché de courir sur les courbes et sauter dans les flaques et m'amuser dans la boue et voir qu'il y avait quelque chose de puissant sur ce terrain, qu'il y avait des choses à faire. Et je me suis mise à travailler à l'association du GP en tant que pédagogue de rue, et donc ça a été un peu la porte d'entrée pour faire venir des jeunes et des enfants qui vivaient un peu comme moi j'avais vécu, cette sorte de libération en arrivant sur un endroit sans mur, enfin ouais, sans enfin vide, quoi, et libre. C'est comme si le gamin qui se retrouvait dans cet espace pouvait être vraiment comme il avait envie d'être, quoi. Il n'avait pas de panneau à l'entrée qui lui disait port du casque obligatoire ou il faut porter des chaussures, des bottes ou ce genre de choses. Il y allait, il se faisait mal, il se tordait la cheville, bon, il courait dans tous les sens et je sais pas, ça se sentait comme une sorte de, comme s'il y avait un truc qui tombait, quoi, dans son comportement à l'adolescent qui arrivait sur la zone, comme si d'un coup il pouvait s'exprimer, quoi. Donc terrain d'expression aussi, l'ILOR. Et ce qui était intéressant, c'était que la pédagogie sociale, elle se pratique hors les murs, avec des petits groupes de jeunes, donc en faisant avec ce qu'on a sur un territoire, un quartier ou dans l'espace public, quoi. Mais ça posait des questions aussi par rapport au cadre législatif dans l'accueil collectif de mineurs. Moi, me positionnant, étant pédagogue, qu'est-ce que je peux, jusqu'où je peux aller, en fait, en emmenant un groupe de jeunes sur ce genre de terrain. Alors, une structure un peu traditionnelle et classique m'aurait dit, en fait, c'est interdit. C'est comme le mec de Securitas qui a détourné l'alarme dont Félix parle. Il aurait pu faire avorter le projet. Mais en fait, non, ça a été source de discussion au sein de l'asso et de débat. Qu'est-ce que ça produit, en fait, d'amener des jeunes dans des terrains qui ne sont pas autorisés et de les questionner sur justement le danger et la prise de risque, les faire bricoler des cabanes et risquer ce qu'il y a, qu'ils se plantent un clou dans le doigt et qu'ils se fassent mal, mais les accompagner, être là, leur les guider, quoi. No conclusion.
Juste un petit mot. Bah, c'est, sur la pédagogie sociale, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il faut juste dire quand même que c'est une pédagogie qui s'adresse à des enfants et des jeunes issus des quartiers populaires et qu'elle cherche à fabriquer de l'émancipation en emmenant ces enfants et ces jeunes en tout petits groupes dans différents espaces, qui soient ceux de la culture légitime, voir des expositions, aller au théâtre, voir des concerts de musique classique, etc. Souvent en pouvant interroger aussi les gens qui font vivre ces lieux-là. Et pour montrer aussi la diversité du monde social dans lequel on est et aussi ses inégalités, les pédagogues de rue vont aussi faire transiter ces petits groupes d'enfants ou de jeunes dans des espaces qui sont souvent, voire toujours considérés comme infréquentables par des pédagogues professionnels, mais aussi par des parents. Et là, l'exemple de Lille-Ouer, il est voilà, très parlant. C'était une zone, on va dire, illégale. Et en pédagogie sociale, on ne s'arrête pas à ça et on va y jouer les curieux. Et ça permet de faire une petite transition avant de passer à la deuxième thématique, là, sur ce côté do-it-yourself, de pouvoir fabriquer, etc. C'est qu'en discutant un peu des thématiques qu'on aborderait ce soir, là, aujourd'hui et hier, on se disait que les grandes métropoles, elles ressemblent de plus en plus à des supermarchés, et pas seulement dans le fait que tout puisse se vendre et s'acheter et que finalement on réduise nos vies à celles de consommateurs, mais que nos métropoles ressemblaient aussi à des rayons de supermarchés dans la façon dont on attend des comportements lisses, brillants, à l'image du carrelage bien lavé de ces espaces-là, et que pour fréquenter autre chose, il faut que d'autres espaces existent. Et là, il faut rappeler du coup l'originalité du type d'initiative et de pratique quotidienne qu'a été l'OER, et il y en a d'autres, heureusement, mais qui sont des pratiques autogérées, de la récup, d'une forme de démocratie, comme ça a été rappelé, qui vient titiller plein de choses qui se passent, que c'est précieux et que ça dérange énormément. Et juste quand même, il y a les images là de la destruction de l'île OR, espace qui a été rasé pour y construire deux supermarchés. Enfin, c'est à l'image du monde dans lequel on vit. Et ça me semblait important de dire que ces espaces, ils sont riches de pratiques qui sont rares, de pouvoir fabriquer l'endroit sur lequel on skate, sur lequel on se rencontre, et qu'on décide comment cet espace-là est agencé. Alors que l'univers de la métropole, c'est qu'on installe soit des magasins, soit des espaces où les gens peuvent être usagers, mais n'auront jamais à s'interroger sur la manière dont ils souhaitent le faire. Et je crois que c'est quelque chose qui est subversif. Et pour faire la transition avec la deuxième partie sur comment on raconte ces récits et comment on donne le goût à d'autres de s'y expérimenter, c'est que là, la petite équipe de l'île OR peut témoigner de toutes les rencontres et de tout ce qu'ils ont et elles ont appris en 3 ans qu'on n'apprendra jamais dans un univers qui ressemble à un supermarché. Et ça, ça fait beaucoup de différence.
On venait, on courait, on criait, on sautait dans les flaques de boue. C'était ça ce qui se passait à l'ILOR. C'est un terrain dans lequel les codes s'effondrent. Les codes de la ville, les codes sociétaux, les codes comportementaux. Tout était remis en question. Ouais. Le petit gars à qui on interdit tout à la maison, ou bien à qui on donne des cachets pour apaiser son hyperactivité, qui a un besoin vital de se dépenser, tout à coup, il est plus contenu. On lui dit qu'il peut courir dans tous les sens. Là, c'est un monde qui s'ouvre à lui. L'ILOR devient un espace d'expression. L'adolescent qui comprend rien aux règles imposées par les adultes se construit ses propres règles. Donc, premièrement, il est accepté comme il est. Deuxièmement, il s'éduque en même temps que nous. Sur la zone, on devenait presque des animaux. C'était ça qui me plaisait dans le fait d'emmener des adolescents sur l'île O.R. Parce que l'adolescence est une sorte de chantier à lui tout seul. Donc, quand on passe par la route, on marche sur le petit chemin d'animal, on arrive sur la zone, et là, les réactions variaient. « Mais c'est la ZAD ici !» disait le petit Benjamin. D'autres disaient « Oh, bof, le skatepark de la poterie, il est vachement mieux. » D'autres « Wesh, c'est ghetto, t'es sûr qu'on risque rien ?» Les réactions des jeunes sont imprévisibles. Elles sont empreintes d'un certain conditionnement, d'une éducation, d'un milieu social, de plein de choses. Mais souvent, une fois cette première impression dépassée, hop, c'est comme un mur qui tombe. On leur disait plus ou moins « Ici, vous êtes libre. » Quoi ? Je peux faire ce que je veux ? » Et là, en général, on rentrait dans une phase test de l'adulte. « Ah ouais ? Et si je fais ça ? Et si j'escalade ce mur-là ? Et si ? Et si ?» Le ou la jeune ne comprenait pas. Et d'abord, pourquoi on nous parle comme si on était des adultes ? Il se passe quoi ici, yo ? Là, t'as un petit jeune qui porte un bandana et qui dit « Est-ce qu'ils se rendent compte que je suis un enfant ?» Quand j'arrivais sur la zone avec un groupe de jeunes, j'étais pas la seule en charge du groupe d'adolescents avec qui je me déplaçais. On devenait tous éducateurs. On avait tous une posture d'éducateur. Enfin, celui qui se sentait aller vers le groupe de jeunes pour leur transmettre ou leur donner des clés, des indices sur ce qui se passait. Là, la responsabilité était partagée.
On vient d'entendre un extrait du prochain épisode de l'île O.R. qui sera bientôt publié sur la R22. Et pendant qu'on écoutait l'extrait, Mamie, je repensais aussi à ce que tu disais sur qu'un refuge, ce n'était pas uniquement des pierres ou un espace cloisonné, quoi, avec un toit, des murs, mais que c'était aussi un endroit où se réunissent des corps malades et des personnes conscientes. Et ça me... Comment dire, avec Kiasma et avec aussi des textes que tu as pu écrire, Olivier, à la suite de Kiasma et avec l'expérience de la R22 à la suite aussi, des discussions qu'on a pas mal eues, mais que le lieu, il est aussi en nous, quoi. Et le lieu, il est aussi dans les souvenirs en commun et des expériences partagées. Et qu'un lieu, même quand l'espace matériel, quoi, physique, est plus là, en fait, le lieu, il continue. Même si on veut plus qu'il continue, il continue, en fait, malgré nous, quoi. Tout le temps, dans les discussions, dans les souvenirs, ça ressort. Et il y a toujours un peu le lieu qui revient. Et faire la R22, c'était aussi une manière parmi d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres, mais une manière, quoi, parmi d'autres, de continuer aussi l'expérience qu'il y a pu avoir à Kiasma. Et je fais ce petit détour aussi, parce que c'est aussi un peu ce qui se passe là aussi avec... l'ILOR et les discussions qu'on a pu avoir avec, en créant, en ouvrant, quoi, cette chaîne, cette antenne, cet espace aussi sonore de l'ILOR. On parlait aussi de cette archive-là aussi comme aussi un matériel qui pouvait servir aussi de transition vers d'autres lieux, quoi, à venir, aussi pour rassembler des personnes qui ont pu avoir des expériences avec des échos à d'autres endroits, pour mettre en commun, faire des séances d'écoute, des moments où on échange autour de ces pratiques-là et de l'importance, du coup, d'archiver au présent, en fait, nos cultures, nos pratiques. Et on voulait engager, voilà, une deuxième partie un petit peu de ce plateau-là autour ces discussions. Et pour commencer ça, peut-être que vous pouvez nous raconter un petit peu quels ont été les éléments déclencheurs déjà de documenter, parce que vous l'avez fait, il me semble, dès le départ ou quasiment, de documenter cette expérience. Et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qui se crée? Qu'est-ce que ça crée aussi autour de vous comme lien de discussion, etc.?
Bah, j'ai envie de rebondir aussi pour dire que ouais, le lieu, il se fait en nous. Il se fait en nous par des vibrations collectives, des moments vécus ensemble, à faire des trucs de ouf. Et ça, en fait, personne ne pourra venir nous l'enlever. Et ça, bah, on ne pourra pas le démolir de sitôt, en fait. Donc, dans la démarche documentaire, il y a autant rendre compte d'expérience, de faire acte de mémoire. Mais il y a aussi, dans les méthodes, il y a aussi, je dirais, deux choses. Il y a un travail de fond, une sorte de récurrence qui est là pour pallier à beaucoup de phénomènes d'invisibilisation, voire des phénomènes de récupération, en fait. Et que bah, nous, on a envie de rester... difficile à digérer. On n'a pas construit juste un langage. Enfin, c'est l'expérience qui... On est vraiment parti de l'expérience. Quand on s'est lancé... quand on se lance dans des DIY en général, c'était pas notre premier, ça sera pas notre dernier. On sait que c'est temporaire, par nature. Et il y a ce truc de se dire, ben, faut quand même garder des traces de tout ça. Parce que... Il y a un gars que j'aime bien, Rossé, il dit... L'histoire, elle appartient au vainqueur, les autres ont le bouche à oreille. Et je pense que c'est un peu ce qu'on s'est dit. Voilà.
Il y a aussi ce truc instinctif que tu as individuellement de documenter et les pratiques de documentation, elles sont pas... Les mêmes au sein du groupe, il y en a qui tiennent des journaux de bord parce qu'ils trouvent que c'est important de décrire ce qu'ils vivent, comme avoir une boîte noire dans laquelle contenir des expériences pour s'en souvenir ou bien pouvoir les partager. D'autres, ça, c'était peut-être un besoin moins vital d'accumuler de la matière, mais il se trouve que il y en a beaucoup de la matière de l'ILOR, des photos, des notes, des cailloux, beaucoup de matière immatérielle aussi. Mais la mise en récit radiophonique, elle a été... C'était un travail intéressant parce qu'on débutait de zéro, on n'avait pas d'expérience en la matière, justement. On savait juste qu'on avait cette pile-là de trucs qu'on voulait transmettre au-delà des limites invisibles de la communauté, du réseau et du voisinage de l'ILOR, et qu'on se disait que ce type d'initiative pouvait inspirer d'autres personnes, même s'il ne s'agit pas d'un skatepark DI, mais plutôt juste de l'occupation d'un espace public ou de la... C'est un exemple parmi d'autres.
Voilà, le second point que je voulais amener sur toute cette démarche documentaire... d'archives, finalement, de recherche qui se couplent à l'action. Et ce que, d'ailleurs, certains universitaires ont appelé à une période la recherche-action. Ben, en fait, on s'est rendu compte que c'était plutôt efficace dans les faits. Là, on en parle au passé, on parle de ces matériaux au passé. Mais au moment présent, ils ont été aussi très utiles. Ils provenaient de diverses sources. Ça pouvait venir... de sources directes. On parle avec les voisins, ils nous donnent une information et puis on la consigne et on la partage aux autres. Pas tous les autres, nos proches, des fois plus vastes, ça dépendait. On posait des conditions. Et puis il y avait aussi tout un pan qui venait en fait d'une forme de décentrement d'outils de la recherche en fait. On parlait beaucoup tout à l'heure des images satellites qui servaient à autre chose qu'à surveiller, mais plutôt à dénicher des endroits. On pourrait utiliser le travail du journal de bord comme de la chronophotographie, comme une sorte de pièce à conviction, quoi. Je me rappelle que, enfin, notre documentation, c'était important pour nous que l'archive, elle soit ouverte. Et en fait, une des grosses problématiques, ça a été comment on transmet aux gens cette dimension de recherche et pas que d'action. Et donc, ça a été de montrer la recherche au présent, en chantier aussi, comme l'espace. Ça a été, pendant l'organisation d'événements, on proposait un espace documentaire, on proposait des temps aussi d'échange. Donc tout ça pour dire que c'était compilé dans des gros classeurs. Et pour l'anecdote, un jour, on s'est dit, mais en fait, tous ces classeurs, c'est pour préparer un procès ou quoi ?
Et un jour, j'ai fait un rêve dans lequel il y avait toutes les classeurs et tous mes journaux intimes qui étaient empilés sur un comptoir devant un jury, devant un juge dans le tribunal. Et on jugeait l'ILOR, il y avait les collègues qui étaient là, assis dans le public. Et on risquait gros. Et du coup, l'avocat, il lisait des passages. Alors comme ça, vous êtes allé prendre du béton.
J'ai une question à soulever ou à poser, mais bien avant ma question, j'aimerais rebondir sur la notion de la documentation. Moi, je suis co-auteur d'une œuvre immatérielle, processuelle, sans fin, et l'œuvre, elle s'appelle le bureau des dépositions. Donc, je place le contexte rapidement. Donc, l'œuvre, elle est née dans un espace solidaire de vie, donc un squat à l'université de Grenoble, et donc on est 10 co-auteurs, co-autrices. Et donc, on a commencé à se voir parce que nos vies sont dans les emprises des décisions politiques préfectorales. Et donc, nous, on a une nécessité de se voir ensemble, de la co-présence physique, de co-réfléchir ensemble et tout. Et donc, on a passé une année, 2017 à 2018, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On a fait des dépositions parce que le nom de l'œuvre, c'est le bureau des dépositions. Donc justement, c'est faire des dépositions, le grogne, tout ce qui nous fait mal, ce qu'on ne comprend pas. Donc on dépose et on a fait plein de dépositions. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et du coup, on s'est dit qu'il faut qu'on les archive, il faut qu'on se rende visible. Parce que notamment, nous, on repousse le droit des étrangers, le droit d'asile sur le droit de la culturalité. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut qu'on soit visible. Il faut pas revendiquer, voilà, la préfecture, elle fait ça, voilà, la mairie, elle fait ça, voilà, les décisions, mais tout en se cachant. Donc, ils vont pas te voir. Donc, du coup, nous, on est visible. C'est pourquoi on a une antenne à la radio R22 Tout le Monde. Et on a fait aussi des performances dans les centres culturels, Marseille, Bordeaux, etc. Et donc, nous, l'idée, c'était de se rendre visible. Et finalement, on est connu. Et voilà, donc on est visible. Donc vous, enfin, Lilo et R, le fait que vous avez documenté, est-ce que vous êtes dans cette optique-là, comme nous, au bureau de déposition, de se rendre visible? Comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup qui ne savent pas ce qui se passe dans ces milieux. Donc je ne sais pas si c'est raconté pour que les gens... Enfin, je ne sais pas si vous êtes dans cette optique, c'est ma question.
Je voulais juste répondre sur ce que disait Mamie, parce qu'on va aussi continuer cette discussion-là dans le deuxième bloc d'émission, mais c'était de faire une belle transition et puis pour vous redonner la parole. Et moi, je pensais que c'était une prolongation assez proche de la question de Mamie. C'était, en fait, moi, quand je suis venu à l'ILOR, j'ai découvert qui est tout près d'où j'habite, en fait. Donc, j'ai été aussi assez privilégié. J'ai été invité par Célestine. Donc, je fais partie de ces gens qui ont pu être introduits et je trouve que la question de la possibilité d'entrer dans un espace de pair à pair, je pense que ça a une certaine qualité aussi de principe. C'est-à-dire qu'on sait toujours par qui on vient aussi, comme pour le bureau. On est toujours invité par quelqu'un en particulier. Je trouve que ça fait partie de ces outils de qualité démocratique qu'évoquait Guillaume, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un rapport d'une espèce de nécessité de présence. Les choses, elles se font pas. Il faut être présent et on est présent à travers quelqu'un qui nous invite. Mais ce que je voulais dire, effectivement, c'est que à l'endroit de la documentation, même si elle a été commencée dans tout le processus, et c'est vrai que moi j'avais été assez impressionné par les fameux classeurs qui deviennent des objets comme ça, je me posais la question, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé, je crois, à échanger. Je vous posais une question que je me posais, à vrai dire, et que Mamie vient de poser aussi. Quelle tension se crée entre volonté de transmettre à d'autres et volonté de se protéger quand même? Et dans la question de la documentation, il y a une espèce de paradoxe de fragilité, quoi. C'est se mettre, se rendre un peu plus visible pour être entendu par d'autres, on espère par d'autres qui partagent avec nous des choses. Mais cependant, il y a une nécessité de se protéger qui est un peu différente d'une documentation classique. En général, on documente, on rend visible, point. Là, c'est vrai qu'à travers le programme de la R22, et c'est aussi pour ça que moi je l'avais proposé à l'ILOR, se posait avec l'ILOR une des tensions qui était au travail avec la radio, c'est-à-dire de documenter en protégeant, pouvoir choisir le niveau de visibilité qu'on avait. Et là, je voulais savoir comment vous, quand vous avez commencé à travailler, à documenter, quelles étaient les tensions en jeu entre qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas, parce que je pense que c'est aussi très présent dans votre projet.
Je sais pas si je vais bien répondre à la question, mais je pense que quand tu parles de tension entre le fait de collecter et de constituer un archivage et en fait le paradoxe de devoir le montrer et en même temps de pas le montrer parce que en fait ce qu'on est en train de faire c'est pas légal. C'est que c'était pas tant la problématique de l'archivage, c'était juste dans quels endroits et dans quel moment on le montre en fait. Et du coup, ces endroits-là, ils vont induire les personnes qui vont les regarder. Et du coup, c'est à partir de cet archivage qu'en fait on peut commencer à discuter. Donc du coup, cette matière-là, elle nous servait pour nous en tant que souvenir, que collecte. Enfin, c'était une sorte de trésor collectif. Mais c'était aussi une matière pour discuter et pour pouvoir aussi sensibiliser, par exemple, sur l'espace. Tout à l'heure, quand je disais qu'on rencontrait les gens et qu'il y avait une sorte de conscientisation de « Oh, bah voilà, toi aussi, t'es un peu dans la galère, tu peux rester. Je pense que ces outils-là, quand il y avait, je sais pas, des événements ou quand on ramenait les classeurs, en fait, ça nous servait pour montrer le lieu qui était l'ILOR. Et ça, c'était l'introduction, quoi. Les gens, ils pouvaient voir et ensuite, on pouvait discuter, en fait, des stratégies que nous, on mettait en place. Et du coup, quand, je sais pas, on avait mis en place des sortes de petites stratégies qui étaient sur le papier ou alors par une transmission orale. Et j'ai essayé de faire un espèce de petit pont, mais en fait, le travail de la radio, c'est aussi raconter par les récits des gens qui sont passés. Et l'ILOR, il s'est fait, le lieu s'est fait en nous, mais au final, l'ILOR, il s'est fait par tous les gens qui y sont passés, quoi. Et du coup, ça, c'était aussi une forme d'archive, de donner la parole et de rendre compte de ça. Et en fait, on monte une antenne radio et on le fait sur la R22, tu vois, par exemple. Genre, je sais pas si ça, c'est un bon exemple, mais c'est un type d'endroit, quoi. On n'est pas non plus sur un certain type de radio. Enfin, on est dans des contextes qui sont, on va dire, choisis de notre part. Et je pense que c'était ça, notre protection. Et c'est aussi par ces décisions-là que, du coup, je vais mal le dire, mais que du coup on se positionne et qu'on peut transmettre et qu'on est dans des rapports d'écoute et qu'on sait qu'en fait celui qui va venir voir les classeurs il est volontaire, quoi, pour le voir. Enfin, voilà, je sais pas qui veut réagir à ça.
Alors je vais pas réagir à ce que tu as dit, mais je voulais essayer de répondre à la question de pourquoi on raconte cette expérience. Je voulais juste rappeler que la plupart des personnes qui ont construit le skatepark, ont commencé le skate au collège et ont quasiment tous visionné une vidéo suédoise dans les années 2000 qui s'appelle Strongest of the Strange, qui a été réalisée par Pontus Alv, et c'est une personne qui construisait lui-même ses skateparks. Et à l'époque, on a tous été marqués par cette vidéo et ça a clairement été une source d'inspiration pour nous. Et en fait, en parlant encore de l'ILOR un an après sa démolition, on pourrait se poser la question, mais moi, je me dis des fois qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut réoccuper un terrain, se relancer dans autre chose. Mais d'un autre côté, je me dis, mais en fait, si on fait ça, c'est tout simplement pour donner envie aux gens de se réapproprier leur ville, en fait, tout simplement.
Ouais, puis ce travail, il nous permet aussi d'avancer, quoi. D'avancer, nous, en tant qu'individu, en tant que collectif. Ça nous entraîne, ça nous exerce.
et puis ça amène plein de rencontres. Pour finir de répondre sur la question de est-ce que la documentation elle servait à être visible au moment présent, et ben poser les questions, ça dépendait vraiment, comme disait Célestine, des canaux de diffusion. Mais après, ouais, il y avait plein de stratégies. Une des stratégies, par exemple, toute bête, et on peut le voir encore dans les classeurs aujourd'hui, il n'y a aucun visage apparent sur toutes les photographies qui ont été prises pendant 3 ans et demi. Donc en fait, il y a l'équivalent de 600 gigas de données, mais il n'y a pas un seul visage dessus.
Moi, je veux juste rebondir sur deux choses, sur cette idée de donner envie à d'autres de s'essayer, et qui est en lien aussi avec cette idée de quand on fait ce genre de truc, clairement, on ne peut pas tout dire. Mais contourner des formes de censure ou d'autoritarisme, etc., ça pousse aussi à des formes de création intelligente. Et ce que je trouve fort là dans les épisodes radiophoniques de l'ILOR, c'est cette capacité à poétiser le monde dans lequel s'est construit cette expérience-là. Poétiser, pour moi, c'est, pour revenir à cette métaphore du supermarché où tout est lisse, poétiser, c'est un monde où il y a beaucoup de profondeur dans les rencontres avec les gens, dans les pratiques, dans tout un univers foisonnant et riche. Et ça, je me dis que c'est une sacrée force en comparaison à ce qu'on nous propose habituellement dans des vies mainstream. Et là, je trouve qu'il y a un enjeu effectivement super fort à ce que ça se diffuse, parce que ce que tu disais, Célestine, de dire finalement on communique et on sait où on communique. Et à la fois, il y a comment t'élargis toujours un peu plus ce cercle, parce que effectivement, pour rentrer à l'ILOR, faut avoir un peu du bol entre guillemets de connaître des gens qui vont t'y inviter, et t'as l'impression d'être un VIP quand il va, de dire waouh, la chance. Et à la fois, il y a ce truc de dire qu'il y a des gens qui ignorent totalement ce que peut être une vie riche et profonde, et que ça vaut vraiment le coup de prendre du temps d'archiver et de diffuser.
Oui, je voulais rajouter une autre prolongation à ce que Guillaume vient de dire, qui rejoint aussi une problématique à souligner Mamie. C'est voilà, évidemment, tu pourrais faire un autre skatepark. Et c'est, vous avez deux chances avec l'ILOR, c'est que vous êtes encore en contact avec beaucoup de gens qui l'ont fait. Et moi, je trouve qu'une archive, c'est beaucoup plus facile à faire quand on n'est pas le héros, au sens, tu vois, quand il n'y a pas un rapport de singularité. Moi, c'est des situations que j'ai connues et qui rend très difficile de faire une archive, parce que du coup, c'est très désagréable. Tandis que là, j'ai l'impression que la polyphonie que vous convoquez dans vos sons est une très très belle manière de se sortir de ce piège de mythe un peu héroïque. C'est simplement une espèce de polyphonie de présence qui fabrique tout un ensemble d'usages, avec en plus à chaque son des espèces d'entrées, de perspectives, d'expériences très différentes. Donc ça, je trouve que c'est une très belle ressource. Mais après, il y a l'autre chose, c'est qu'en fait, faire un lieu, c'est aussi le continuer dans le régime du récit. Et il y a une chose, moi, que quelque part, ce qui se rejoint dans cette expérience de ILOR qu'on a retrouvé aussi avec le bureau de déposition, c'est qu'effectivement, moi, lorsque Célestine m'a invité à venir voir le terrain, j'ai considéré comme toi que t'es privilégié, mais t'es aussi engagé. C'est-à-dire qu'une fois que tu viens là, t'es pas là pour voir un truc et repartir avec ce que t'as vu. Là, t'es piégé en quelque sorte. Et je rejoins ce qui se passe aussi avec les présentations du bureau de déposition. Moi, quand je suis venu voir à Marseille leur présentation, à la toute fin, la présentation de leur performance de déposition, qu'on ne peut que la voir en direct, donc qui n'a pas d'équivalent enregistré. Il y a quand même une demande aux gens qui sont censément être le public d'être responsables de ce qu'ils ont vu, et donc d'être engagés maintenant définitivement à vie dans un processus auquel ils ont assisté, dans lequel on ne peut pas être en rapport d'extraction, c'est-à-dire j'ai vu un truc que je vais utiliser. Non, maintenant moi je suis une partie du processus et je suis aussi responsable de ce que j'ai vu. Je trouvais que l'ILOR fonctionnait aussi dans cet engagement de la responsabilité cette question de la présence qui, pour moi, est vraiment peut-être aussi une clé à ce monde en dehors du supermarché, parce qu'on ne peut pas regarder l'île OER de l'extérieur de l'île OER, il n'y a pas vraiment de possibilité. Et ça, je trouve que l'absence d'extériorité est une grande force du projet. Quoi.
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Olivier, c'est aussi un peu ce qui se passe d'une certaine manière avec la famille restée étranger aussi, où là, on a Barbara avec nous qui est un membre de la famille. Et quand on met les pieds dans la maison où la famille restait étranger, on peut faire partie de la famille un peu malgré soi, avec aussi tout ce que ça engage, quoi, d'être dans une famille. Et justement, ça met dans une position où l'extraction devient très compliquée aussi derrière, parce qu'on n'a pas toujours envie de faire partie d'une famille. Et avec tout ce qu'il y a de magnifique, mais aussi de ce qu'il y a d'une vie de famille, quoi, d'écoute, de soins, d'attention, enfin de temps en fait à y consacrer pour que la vie puisse continuer, quoi. Et ça, c'est quelque chose dont on parlera peut-être plus dans la seconde partie de la soirée. C'était déjà pour l'introduire, où j'ai l'impression que c'est quelque chose avec des outils, des manières de faire différentes, mais en tout cas qui nous relie ici, qui nous relie ce soir, quoi, ici.
Oui, du coup, je te suis dans ce que tu disais sur justement l'appartenance à la famille. En fait, il y a un truc aussi qui était intéressant avec cette zone, c'est que j'ai l'impression qu'elle triait un peu elle-même les personnes qui venaient et surtout qui y restaient. Moi, j'ai ramené pas mal de potes sur la zone, j'étais super emballé, super fier de leur montrer ça. Et il y en a plein que ça n'a pas du tout branché, qui sont venus une fois, peut-être deux fois, et voilà. Et par contre, t'as aussi des mecs qui sont passés une fois et après, on les voyait toutes les semaines. Et en fait, les gens... je pense qu'ils étaient intéressés par la zone, le montraient d'eux-mêmes, qu'on n'avait pas trop... voilà, il y avait... Ouais, c'est ça, ça triait un peu d'elle-même.
Je reviens sur ce que tu dis, Anto, du coup, c'est un peu grâce à toi que j'ai découvert le lieu, dû à une soirée en centre-ville avec des amis qu'on a en commun. Je suis arrivé une journée, je suis jamais reparti. Vraiment. Alors que je viens pas du tout du même milieu que le skate. Moi, je fais de la trottinette, donc déjà, il y a une grosse marche, enfin, c'est un escalier carrément, ça n'a rien à voir, mais j'ai été adopté par cette famille et je suis toujours là encore. Voilà, c'est tout.
Je voulais juste te demander, je crois me rappeler par contre que si tu fais de la trottinette, tu as des savoir-faire en construction. Et que, non, je me rappelais qu'en écoutant les sons, qu'il y avait des espèces de croisements comme ça entre être moins dans le premier cercle comme ça à cause du skate, mais ramener dans les savoir-faire de la fameuse famille peut-être des pratiques, des usages qui te permettaient quand même de trouver ta place aussi dans le projet, non ?
Moi, j'ai été un peu VIP du coup à aller sur le lieu, mais... j'avais un avantage, c'est que je suis le seul professionnel du BTP de toute l'équipe, à l'origine. Le seul problème, c'est que je travaille dans les bâtiments en face, juste en face. L'avantage, c'est que du coup, quand on avait besoin de matériaux, c'était rapide, je savais comment faire, quoi. Donc là, c'était un petit avantage et ce que j'ai vraiment aimé, c'est pouvoir donner un maximum de conseils et apprendre avec toute l'équipe, et franchement c'était trop bien. J'ai appris le béton et au final après je l'ai perfectionné, je sais faire du béton maintenant, je savais pas avant. Et en termes de construction, d'assemblage bois, j'ai pu donner des petites idées, des petites anecdotes, comment faire, visser comme si, faire des couper comme ça, etc. Mieux de positionner pour porter, des petites choses simples mais qui aident beaucoup. Et puis voilà quoi. Fin.
J'ai le souvenir d'une anecdote où tu disais avoir causé avec tes collègues de travail sur un des nouveaux immeubles de la Plaine de Beaux. Et vous en étiez venu, enfin, ils avaient entendu parler de l'île OER, enfin, tu avais abordé avec eux la construction de ce skatepark. Et ils trouvaient ça complètement incroyable de consacrer autant d'énergie pour si peu de temps, alors que ça va être démoli. Et mis en perspective, on se demandait s'ils avaient conscience du fait que les bâtiments qui construisaient avec des matériaux qui sont quand même pas d'une qualité de ouf et qui construisent vraiment à vitesse grand V, si en fait ils se rendaient compte que finalement tout ce chantier de construction de nouveaux quartiers lui aussi est éphémère et inscrit dans une temporalité qui n'est pas si longue, 50 ans peut-être, en tout cas...
Je vais pas avoir le niveau de dialogue adapté pour expliquer correctement comment ça fonctionne, mais en gros, il y a des gens qui sont tout en haut, qui gèrent ça très mal, avec des gens qui sont encore plus mauvais qu'eux en dessous. Et nous, on est en bas de l'échelle quand on construit. On est le petit ouvrier d'un patron. Moi, par exemple, je suis intérimaire à l'heure d'aujourd'hui. Quand j'ai découvert l'ILOR, j'étais en CDI, je l'ai quitté, et depuis, je suis toujours intérimaire. Mais c'est... Je sais pas comment expliquer. C'est les gens avec qui je travaille, ils font ce métier-là, parce que de base, ça leur plaît, ce métier-là. À l'heure d'aujourd'hui, c'est plus pour manger qu'ils font encore ce métier-là, sauf certains qui sont maintenant chefs de chantier. Et là, c'est un peu plus intéressant, mais sinon, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant à travailler avec ces matériaux-là. Moi, j'ai eu un petit avantage, c'est que j'ai eu le celui-là pour m'amuser et faire de la création et faire ce que je voulais. Maintenant, c'est différent. C'est pas pareil. J'espère que j'ai réussi à répondre à ta question.
Bon, le moment tant attendu du repas va arriver. On va finir cette première partie. On va se faire une pause aussi bien ici qu'en live aussi pour celles et ceux qui nous écoutent sur la R22 musicale. Seulement, si vous êtes à Rennes, vous pouvez venir à Transcanal parce qu'on peut aussi manger des châtaignes aussi. Et voilà, on va reprendre dans une heure pour un second plateau. Merci à tout le monde pour cette première discussion et à tout à l'heure.
Merci.